Depuis une quinzaine, le débat d'idées oppose une figure de la pensée libérale et européenne à une autre, au service d'une pensée plutôt anticapitaliste autant que anti-marxiste. Il s'agit bien entendu de l'intellectuel romantique Germaine de Staël et de Maurice Blanchot, non l'écrivain très à gauche de la seconde moitié du XXe siècle, mais le jeune journaliste très à droite, qu'il était dans sa jeunesse au moment des années 30. Pour la première, et à l'occasion du bicentenaire de sa disparition, elle recueille la une du Figaro et page intérieure de Livres et idées, le supplément de la Croix. Si Jacques de Saint-Victor insiste à la fois, de façon un peu misogyne, sur la femme un peu trop exigeante mais engagée, sur ses très nombreux défauts mais ses qualités intellectuelles, mais son engagement quand même pour la vie intellectuelle, on notera que l'actualité de l'écrivaine est aussi abondante que variée. La publication de ses romans, et de son essai sur la littérature pour La Pléiade, des textes engagés et politiques dans le recueil intitulé « La passion de la liberté » et publié dans la collection Bouquins, et l'essentiel de sa pensée politique chez Omnibus. La question de son activité se pose donc sous ces trois entrées. On note également qu'il s'agit là de trois anthologies, donc d'une œuvre considérable. Il n'y a pratiquement pas d'essai biographique en dehors de ces trois gros volumes. Pour Thierry Clermont, les romans tiennent une place au moins historique. Delphine, roman par lettres, est ainsi à ses yeux, comme il le dit, le chaînon manquant entre la nouvelle Héloïse et George Sand. C'est également, nous dit-il, le roman de l'illusion et du renoncement amoureux qui ouvre la voie à La Porte étroite et au bal du comte d'Orgel. Pour le second, il donne un portrait de l'Italie et, je cite à nouveau, c'est dans son exaltation passionnée de Naples et des Lumières et de la Révolution que le livre tient ses meilleures pages. Pour Michel Auboin, qui met en œuvre le volume d'Omnibus, consacré donc à la pensée politique de Madame de Staël, Madame de Staël est une grande européenne. Française de cœur, suédoise par son mari, suisse par son père, elle pense l'Europe à sa façon qui n'est pas celle de Napoléon, même si l'expression est anachronique, elle promeut plutôt une Europe des nations. Allemagne, Italie, elle voit déjà, et ça c'est nous qui l'ajoutons, des nations là où historiquement il n'existe encore que des mosaïques de petits états. Francine de Martinoire complète pour La Croix, témoin privilégié des événements, elle manifeste tôt dans ses écrits ce qui sera un des axes de sa réflexion politique, l'espoir d'une monarchie parlementaire à l'anglaise. Bon, ça on connaît déjà, on connaît Voltaire par exemple. Jamais elle ne renoncera, ajoute-t-elle, à l'espoir de voir triompher les trois principes des Lumières, progrès, libre pensée, doctrine humanitaire. Et là, on se dit que, sans vouloir être trop insistant, ces trois principes s'éloignent quand même un tout petit peu de notre actualité. Voici pour la pensée libérale, à ses débuts néanmoins, et cette figure des lettres françaises. Pour la mutation politique, on ira voir la une de Libération du jeudi 27 avril, intitulée « Maurice Blanchot, trouble-je ». Le jeune Blanchot est un antiparlementariste, lui, anticapitaliste, anti-marxiste, cela va de soi, nous dit Claire de Varieux, mais aussi anti-allemand, ce qui le brouille assez vite avec le clan représenté par Robert Brasillach. Donc on est évitera les réductions un peu rapides. Anti-soviétisme quand même, nous dit-elle, et surtout antisémitisme, et un antisémitisme sans mesure. Un extrait, précipiter les Français au nom de Moscou et d'Israël dans un conflit immédiat, il parle également de l'instinct de cosmopolite de Léon Blum. On voit bien que la rhétorique là est une rhétorique typiquement d'extrême droite. Nicolas Vaille rappelle pour sa part dans Le Monde des Livres que Blanchot a adhéré à l'idéal anticonformiste de toute une génération qui, je cite, « consiste à appeler la jeunesse française à se soulever au nom de l'ordre nouveau contre la République radicale et le Front populaire ». Les deux articles reviennent également sur la conversion, reconversion du jeune homme engagé en écrivain éloigné de la scène des idées, enfin de la scène des idées, reprenant quand même à son compte les idées d'extrême-gauche dans les années 68, parrain d'ailleurs du manifeste des 121. Les deux reviennent également sur le livre que Michel Surilla lui a consacré pour en souligner les louvoiements jusqu'aux mensonges, même s'il n'est pas question pour l'auteur de l'assimiler par exemple à la figure d'un Heidegger, ni à nier sa conversion. Pensée libérale et européenne d'un côté, idéaux d'extrême droite digérés autant que dissimulés de l'autre, cette semaine encore, pour comprendre l'actualité, il n'est que d'aller consulter la littérature.